Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour, mais quel bonjour.
Très
énergique, Julia.
Je suis très heureuse de vous retrouver dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good qui fait du bien à notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, Mélanie, on va parler de quoi dans notre émission?
Alors, à 11h45, comme toujours, on retrouvera les bienfaiteurs d'Europe 1. Deux bienfaitrices dans les rangs aujourd'hui. D'abord, Cécile Coumeau qui va nous parler ce matin du métier de service de home organizer. Alors, c'est simple, hein, ce métier, ce sont des gens qui viennent chez vous à votre secours pour désencombrer et surtout vous donner des conseils de rangement pour y voir plus clair dans vos intérieurs. Apparemment, c'est un service qui fait de plus en plus d'adeptes. Et puis, après ça, on retrouvera bien sûr Nathalie Le Breton avec ses prescriptions lecture pour les plus jeunes dans sa bibliothèque du jour. Il y aura 3 livres qui expliquent aux enfants, ils vont adorer, j'en suis sûre, que les parents parfaits, ça n'existe pas. On aime beaucoup ce message, hein, Julia?
Et oui, c'est de quoi déculpabiliser en lisant la petite histoire du soir. Mais sinon, dans un instant, on va vous proposer une émission 100% masculine. Alors j'exagère un peu parce que ça intéressera aussi les femmes qui nous écoutent. Ce matin, on va parler de tout ce qui peut coincer quand les hommes prennent de l'âge. Je parle de la déprime, baisse de désir, prise de poids, bref, vieillir au masculin, c'est pas non plus facile. Alors on va vous conseiller ce matin. Et pour en parler, nous serons épaulés de 2 experts, la journaliste Anne-Cécile Michelet qui a enquêté sur le phénomène de l'andropause, ainsi que le docteur Marc Galliano, chirurgien urologue et andrologue. Mais tout de suite, quoi de mieux que de démarrer avec le point de vue d'un homme qui vieillit comme tous les autres, c'est Clément Lanoux.
Europe 1.
Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler du vieillissement chez les hommes. Ça intervient à partir de 40 ans. Donc comme j'ai 39 ans et demi, je ne suis pas du tout concerné par le sujet. Je vous laisse. Non, j'ai quand même regardé un peu sur Internet. Puis je me suis dit que peut-être que vous alliez m'aider à mener cette enquête tout au long de l'émission. Puisque je crois, alors je ne veux rien dire, mais que vous côtoyez des hommes et qu'ils ont un petit peu plus de 40 ans.
Oui, un petit peu plus.
Est-ce que déjà vous avez vu des changements avant que j'intervienne dans ce que moi j'ai trouvé?
Il y en a un au niveau du centre du visage.
Du
corps.
Ah oui,
ça
fait un peu arrondi.
Ça fait partie de ça, justement.
Des petits problèmes de cheveux. Ah, ça fait un moment déjà.
Alors, c'est le premier qui arrive, effectivement. Alors, il y a sur le papier, il y a dans la réalité, sur le papier, effectivement, les cheveux deviennent poivre et sel, un petit peu à la George Clooney. Mmh. Ça, c'est dans les films.
Ça, c'est quand on en a des cheveux.
Ça, c'est quand on en a. Dans la réalité, bah, il tombe et il y a plus un côté Gérard Jugnot, qui est une autre star de la télé. Mais bon, chacun son truc. On va l'aborder dans cette émission, évidemment. Il y a la libido. Je vais le dire poliment, mais on s'assagit en vieillissant. Apparemment, on a moins de besoins sexuels. En gros, passé un certain âge, bah, l'excitation, quand elle est là, faut pas louper le créneau. Faut être là, faut réserver vraiment à prendre sa matinée à ce moment-là. Faut rester positif. Si vous étiez avec quelqu'un d'infidèle, il va devenir fidèle. Ça, c'est le bon côté. Il faut voir. Je ne vous cache pas que le sujet m'a un peu déprimé. Ouais. Alors, la voiture aussi. La voiture, ça change apparemment. Ça, c'est plus aux alentours de 50 ans pour compenser peut-être une petite baisse de testostérone. On va troquer la Kangoo ou le Break, hein, qui était plutôt utile pour emmener les enfants à l'école, contre une voiture plutôt sportive qui va nous donner l'impression de l'être encore, parce qu'en termes de sport, ça diminue également. Le look, ça se fait naturellement. Il n'y a pas de changement radical. Apparemment, c'est petit à petit. On commence avec un petit polo, puis on finit avec une petite chemisette sans manches. Voilà.
Ça, c'est impossible.
Et puis, il y a... Non, ça va venir, Mélanie. Il y a effectivement une perte de muscles. Alors ça, c'est normal. Ouais. Mais qui est compensée par une... on va dire... un gain de gras, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ouais. N'oubliez pas un truc, c'est que dans Poignée d'amour, il y a amour, c'est quand même très important.
Il faut toujours garder ça en tête.
Et puis alors là, très sérieusement, parce que quand même on est une émission, on parle de santé, plus de risques cardiaques passé 50 ans, donc faites attention, moins d'ascenseur émotionnel s'il vous plaît. voilà, il n'y a pas de je te quitte, mais plutôt des j'ai besoin de temps pour moi, je vais faire un voyage, allez-y doucement. C'est beau de vieillir, mais faites attention quand même. J'espère ne pas avoir sapé le moral à tout le monde.
Oh, non, pas tout à fait. Merci Clément Lanoux pour cette chronique. Allez, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux invités du jour, à commencer par vous, Anne-Cécile Michelet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste et autrice de Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause et c'est paru chez Le Duc. À nos côtés également ce matin, il y a le docteur Marc Galliano. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien, urologue et andrologue. Anne-Cécile, je vais commencer par vous. On a parlé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, dans cette émission de la ménopause, cette phase de la vie des femmes. Mais les hommes ne sont pas épargnés. Ils sont confrontés à ce qu'on appelle l'andropause. Pourquoi on en parle presque jamais? Pourquoi ce moment de la vie est aussi tabou chez ces messieurs?
Faudrait presque leur demander à eux, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Je pense que, alors déjà, andropause, ça veut dire fin de l'homme. Andros, en grec, ça veut dire homme. Et pause, ça veut dire la pause. Donc,
mais c'est affreux.
C'est horrible. C'est affreux. Enfin, ça s'explique dans l'histoire. Ouais. Je vous passe la petite histoire. Mais enfin, c'est né à un moment où on avait besoin d'hommes virils puissants, à savoir la Deuxième Guerre mondiale. Et le mot, il est né à ce moment-là. Okay. Donc le mot lui-même, j'imagine, si j'étais un homme, j'aimerais pas dire je suis un homme fini.
Non, ça c'est. Et c'est pareil pour la ménopause, ça veut dire un truc affreux ou pas?
On sait non, pas, moins ménopause, c'est la fin de la reproduction, ouais, la crève. Ouais. Donc c'est moins.
C'est pas la fin de la
c'est
vie.
Moins c'est moins grave. Donc voilà. Donc déjà, mais si on fait abstraction du mot, aujourd'hui ça s'appelle plus DALA ou hypogonadisme. D'accord. Ça fait plus sérieux et moins
dramatique.
Moins dramatique.
Est-ce que l'andropause, c'est un passage obligé dans la vie d'un homme? L'andropause, elle, je ne sais pas, quand elle arrive, en tout cas, elle pointe son nez vers quel âge?
Alors, elle pointe en moyenne à partir de 45 ans. Ça ne veut pas dire qu'à 45 ans, c'est la fin du game. Ça veut dire qu'on va commencer à avoir peut-être des symptômes. On peut aussi passer toute sa vie sans avoir aucun symptôme, à part la baisse de la testostérone. Ça, c'est un fait. Je crois qu'il est peu contestable.
Alors, docteur Galliano, on parlait de la ménopause. On la connaît bien aujourd'hui. Elle marque la fin, vous le disiez, de la fécondité, la fin des règles, etc. Bon, chez les hommes, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui se passe exactement dans leur corps pendant l'andropause? C'est aussi une histoire d'hormones?
Alors, c'est complètement une histoire d'hormones aussi, mais ça joue sur en fait, trois niveaux. On va dire la psyché, donc c'est l'humeur, par exemple. On est un peu plus triste, mais ça joue aussi sur les compartiments physiques. Donc les modifications physiques sur la répartition du gras par exemple, la résistance à l'effort physique, mais aussi sur la sexualité. La sexualité, c'est le désir, l'envie, l'érection, et puis aussi en effet sur la reproduction. Mmh. Il y a une baisse de la qualité.
Ah d'accord, du sperme. Quand
tout
même.
À fait.
Vous le sentez dans votre cabinet ce tabou autour de l'andropause? Parce que c'est vrai que la ménopause, on dit on n'en parle pas assez, mais finalement nous on en parle souvent, en tout cas dans cette émission. L'andropause, je crois que c'est la première fois qu'on fait une émission à ce sujet. Oui, et je vous avoue qu'on est passé dans la rédaction là tout à l'heure en disant on va faire une émission sur l'andropause. J'ai vu tous les hommes d'un certain âge baisser la tête.
Mais certains ne savaient pas ce que c'était.
Alors voilà, je pense que c'est pas tellement un tabou, c'est surtout une méconnaissance. Mmh. Plus que de dire un tabou, on n'en parle pas parce qu'on sait pas que ça existe, on comprend pas ce qui nous arrive. Donc c'est vraiment plutôt une méconnaissance, d'où de l'interne, d'un ouvrage comme
d'un
ça.
Ouvrage. Mais ça veut dire que les hommes qui nous écoutent, par exemple, ils peuvent aussi avoir des bouffées de chaleur. Vous parliez de comment dire, de morale qui décline, mais est-ce que ça peut être aussi des sautes d'humeur? C'est quoi?
Oui, exactement. En fait, on a ce qu'on appelle une humeur triste, un peu plus triste. On a moins d'entrain à être force de proposition sur des projets. Mmh. Donc on se replie un peu sur soi. Et puis parfois, on peut être un peu plus irritable. Donc oui, il y a aussi de ce qu'on appelle communément la saute d'humeur, oui.
Et ça concerne quelle part d'hommes en fait? Parce que justement, on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément. Il y en a qui n'entendront jamais parler dans leur corps, mais ça...
exactement. Ouais. Parce qu'il faut savoir une chose au niveau biologique, c'est pas tellement qu'une concentration en testostérone, c'est surtout la capacité à l'utiliser. On peut avoir une testostérone normale et avoir des symptômes, mais on peut avoir des symptômes avec une testostérone basse ou à contrario, on peut avoir une testostérone basse et très bien vivre. Et en fait, on peut pas cocher toutes les cases.
Ouais, c'est
tant mieux.
C'est un peu comme chez les femmes, en fait.
Exactement.
Aussi, parce que toutes n'ont pas des bouffées
exactement.
De chaleur, même s'il y en a beaucoup.
Il y en a, mais donc, en fait, ça va dépendre aussi de la vitesse à laquelle ça se dégrade.
Et
alors,
ça, justement, c'est quoi? C'est d'un seul coup, on se réveille, on est andropausé?
Non. En fait, on ne sait pas trop à quel moment on va souffrir de tous les symptômes ou pas, à quelle vitesse ça va apparaître. En tous les cas, il y a pas, c'est pas. Du jour au lendemain.
On-off.
Voilà, ça n'existe pas, c'est progressif. Et surtout, c'est que le corps s'adapte. Il y a une sorte d'adaptabilité qui fait que des fois, on a des symptômes, mais on les néglige et on ne se rend pas compte. Mmh.
Merci à vous deux, merci pour cette intro. On revient dans quelques minutes sur Europe 1 et on va poursuivre cet entretien sur le vieillissement au masculin. Et oui, on n'en parle pas assez de l'andropause et des tracas qui vont parfois avec. Alors, on vous explique tout dans un instant, surtout, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Votre magazine Feel Good Bien fait pour vous revient dans un instant sur Europe 1. On vous explique tout aujourd'hui sur les désagréments du vieillissement au masculin. Et surtout, on va vous donner des conseils pour que tout se passe bien, pas d'inquiétude. Mais avant ça, on va vous offrir un peu de musique. On part se détendre sur une île merveilleuse grâce à la chanteuse Madonna, la Isla Bonita, sur Europe 1. Oh, je suis certaine que ce titre vous a donné autant la pêche qu'à nous en studio. Ce classique de la chanteuse Madonna, c'était la Isla Bonita sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Ravie de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur le vieillissement des hommes. On en parle avec vous et on vous conseille grâce à la journaliste Anne-Cécile Michelet, auteure du livre « Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause » paru chez Le Duc. Et grâce également au docteur Marc Galliano, chirurgien urologue et andrologue. Anne-Cécile, on va continuer avec vous. On va va détailler d'un peu plus près les signes qui doivent faire penser au début hein, de l'ordre pose. Est-ce que déjà il y a des signes visibles? Est-ce qu'on est, par exemple, je sais pas, moins poilu? Est-ce qu'on perd ses cheveux?
Oui, on peut commencer à perdre ses cheveux, ses poils, notamment les poils pubiens aussi.
Ah oui. Ça, c'est un signe de début d'andropause en général.
Ça peut, enfin, c'est pas forcément. C'est pas
je veux dire, un homme qu'on va croiser dans la rue qui a plus de cheveux,
alors un homme
ou qu'on va voir dans un film qui a plus de cheveux, ça veut dire que c'est un homme qui est andropausé.
Il peut être juste stressé, il peut avoir des hormones qui ne fonctionnent pas bien pour d'autres raisons. Ouais. Donc, pas de panique.
Et parce qu'il y a des gens qui ont des calvicies à 25 ans.
C'est ça.
Et ils ne sont pas andropausés.
Ils ont peut-être des problèmes d'érection, mais ceci ne nous regarde pas.
Mais ça peut être lié, l'absence de cheveux et problèmes d'érection.
Alors, peut-être demander au docteur Galliano.
Alors, les alopécies, il y a deux types d'alopécies, les androgénodépendantes et les génétiques.
Oui.
C'est, à 25 ans, c'est plutôt génétique. Oui. Si on pose la question...
On regarde le papa, le grand-père, et ça va être pareil souvent.
Ouais. Donc, elles ne sont pas toutes androgénodépendantes.
D'accord. Voilà. Anne-Cécile, les hommes, on l'a dit tout à l'heure déjà, mais ils vont aussi souvent, quand ils vieillissent, comme nous les femmes, hein, prendre du poids. Mais on a remarqué quand même qu'on ne le prend pas au même endroit, le poids, hommes et femmes. Pourquoi c'est surtout localisé au niveau du bassin, donc du ventre et puis des hanches chez les hommes? Est-ce qu'il y a une explication?
Alors déjà, ils ne sont pas obligés de prendre du poids. Ça dépend vraiment de l'hygiène de vie qu'on a, de la vie qu'on a. Si on est hyper stressé, qu'on mange mal, qu'on ne fait pas de sport et qu'on se malmène, c'est sûr que ça va aller moins bien. Il y a des hommes qui ne prennent pas de poids et des femmes qui ne prennent pas de poids non plus, d'ailleurs.
Ce n'est pas la majorité quand même, j'ai l'impression.
On
les connaît pas.
Parce que je pense qu'on a perdu notre relation à notre corps qui nous envoie des messages. Parce qu'en fait, le corps, à un moment, il arrête de... Son boulot, c'est plus de faire des bébés, même si un homme peut continuer à procréer jusqu'au bout, normalement. Donc, à un moment, il faut changer son alimentation. Il faut l'entendre et il faut adapter son rythme de vie. Si on ne le fait pas, alors il y a un dérèglement.
Mais on le sait, docteur, pourquoi ils prennent du ventre au niveau de la bedaine, les hommes en vieillissant, souvent, quand même?
Oui, en fait, c'est lié au territoire androgéno-dépendant ou pas. Il faut savoir que la testostérone, lorsqu'on grossit, elle est transformée en œstrogène. Et donc le gras appelle le gras.
Ouais.
Exactement. Donc c'est pour ça que la répartition des graisses change. Et souvent, on a une répartition des graisses chez les hommes, on appelle les poignées d'amour, mais aussi on peut en avoir plus sur le thorax. Donc ça, en fait, c'est simplement le fait qu'en consommant moins d'énergie, en faisant travailler moins ses muscles, en diminuant sa masse maigre, on augmente de facto sa masse grasse, avec une répartition qui est un peu différente que lorsqu'on est jeune.
Docteur, pardon, que les hommes prennent des seins.
Parfois ils ont un petit volume sur les
exactement.
Seins. Docteur Galliano, sur le plan sexuel, on voit aussi du changement, on a moins envie, il y a de plus en plus de panne, entre guillemets. On peut être honnête par rapport à ça, ça vient de quoi tout ça? Est-ce que d'ailleurs tous les hommes passent par là, même s'ils disent le contraire?
Alors, les pannes sexuelles, on en a à tous les âges. Hein, donc ça, il faut quand même rassurer aussi les plus jeunes qui nous écoutent. La panne, ça peut bien souvent, c'est lié à un stress, à l'émotionnel. Maintenant, lorsqu'on commence à prendre de l'âge, il faut savoir que on se régénère plus lentement. Donc, par exemple, les phases réfractaires, lorsqu'on a fait l'amour pendant la nuit une fois, on aura plus de mal à faire l'amour tout de suite derrière. On attendra une heure, deux heures, et puis après... Un jour, deux jours, trois jours.
Et
parfois,
et jour,
ça revient plus jamais.
C'est ça.
Donc, en effet, en vieillissant, les rythmes sont un peu plus lents pour se régénérer. L'envie diminue aussi. Alors, il n'y a pas aussi... Ce n'est pas toujours lié à la testostérone. Hein, quand vous avez 20, 30 ou 40 ans de mariage,
c'est un truc qui s'appelle la routine qui peut aussi jouer.
Donc, en fait, il faut jamais dissocier le corps et l'esprit.
Anne-Cécile, vous êtes allée justement à la rencontre d'hommes qui ont accepté de se livrer sur ce sujet de l'andropause et de la sexualité. Ils vous ont tous parlé, je pense, de ces changements au niveau sexuel. Qu'est-ce qui ressort le plus dans les récits que vous avez pu recueillir?
Alors oui, d'abord, je suis allée rencontrer ces hommes parce que j'avais besoin de comprendre ce qu'ils vivaient, surtout que ça leur tombe dessus comme un frigo, parce qu'ils n'en ont pas entendu parler pour certains. Donc comprendre ce qu'ils vivent, comprendre leurs doutes, leurs peurs, j'avais besoin d'entendre leur vécu aussi. Le message étant à tous les hommes, ça vous concerne tous. C'est-à-dire, si tous ces hommes ont parlé pour mon livre, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul. Ça me semblait extrêmement important. J'ai oublié votre question.
Oui, est-ce qu'il parle de ses pannes sexuelles ou de ses problèmes d'érection, moins efficace, on va dire.
Moins longue et parfois moins présente.
Ils n'ont pas l'impression de perdre leur virilité.
Comment ils le vivent, c'est ça, qu'est-ce qui ressort?
Eh bien, ça dépend des hommes. Au départ, ça déstabilise, évidemment. Ensuite, il y a différentes réactions. Soit ils renoncent, ils s'occupent des petits-enfants, ils sont fatigués, le jardin, machin, hein. Et ça arrive pas mal, le côté je fuis, mais je dis pas pourquoi. Et puis après, une fois, ceux qui acceptent de se questionner, de questionner d'autres, etc., ils peuvent réinventer leur sexualité pour, parce que bon, okay, s'il y a moins d'érection ou si elle est moins présente, on peut aussi réapprendre. Parce qu'en fait,
et là, le champ des possibles s'ouvre, en fait. C'est une belle étape même.
On n'a jamais eu d'éducation sexuelle, si ce n'est le porno. Donc on connaît le programme, excitation, pénétration, frotti-frotta, éjaculation, orgasme si tout va bien. Okay, on peut...
Et dodo.
Et dodo. Peut-être qu'on peut réinventer les choses.
Marc, on parlait de perte d'érection, on parlait de panne, tout ça. Au bout de combien de temps, combien de pannes, c'est quoi le moment où il faut consulter justement ?
Alors, le moment de la consultation, il est au moment où le patient sent qu'il y a un problème. Il y en a certains qui consultent à la première panne. Pour eux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement pénalisant. Donc, ils viennent à la première consultation. Et d'autres, certains, c'est peut-être leur compagne ou leur compagnon qui prennent rendez-vous en disant « Tiens, il y a quelque chose de pas normal, va consulter, ça tourne par an ». Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend surtout de l'envie du patient d'y aller ou des compagnons.
Il ne faut pas hésiter.
Il ne faut pas hésiter, oui, bien sûr. Plus on attend, plus on stresse, et plus on stresse, plus on a des troubles.
Très rapidement, Marc, on a reçu une question d'un auditeur d'Europe 1. C'est Jean-Pierre qui demande s'il y a des médicaments qui peuvent accélérer l'apparition de l'andropause et nous faire vieillir prématurément, nous les hommes.
Alors, il y en a un, ça s'appelle un traitement anti-androgénique. Lorsqu'on a un cancer de la prostate, on bloque la production de testostérone. Donc là, oui, on vit beaucoup plus vite et on a toutes les conséquences physiques et biologiques de l'andropause.
Bon, on n'en a pas fini avec le vieillissement au masculin. C'est notre sujet ce matin, l'andropause. D'ailleurs, quand les hommes ont vraiment trop de désagréments à cette période de leur vie, y a-t-il des traitements ou des médecines douces peut-être qui peuvent les aider à passer ce cap en douceur? On va tout vous dire, mais en attendant, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On continue à parler du vieillissement des hommes et de la fameuse andropause dont on ne parle pas assez souvent. Donc c'est pour ça qu'on y consacre aujourd'hui une émission complète. Et pour nous éclairer, nous sommes toujours avec Anne-Cécile Michelet, journaliste et autrice du livre « Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause » paru chez Le Duc. Et puis grâce au docteur Marc Galliano, chirurgien et urologue et andrologue. Docteur, en période de ménopause, on le sait, on propose aux femmes un traitement hormonal de substitution. Alors, toutes ne le prennent pas, mais en tout cas, ça peut aider certaines à mieux vivre cette période. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que chez les hommes, il peut y avoir un traitement hormonal qui pourrait les aider à mieux passer ce cap?
Alors, exactement. Alors, ce n'est pas passer un cap. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre un traitement par testostérone de substitution, il faut prévenir les patients que c'est sur du long terme. Après, aujourd'hui, les modalités du traitement, elles sont un petit peu... Enfin, il y en a deux aujourd'hui. C'est soit l'injection de testostérone en intramusculaire, soit de s'appliquer un gel.
Ouais.
Les traitements par la bouche en gélule, en fait, il faut en prendre vraiment beaucoup pour que ça soit efficace.
Il n'y a pas des patchs aussi, comme les
Alors,
femmes
Alors, les patchs, on en avait, on n'en a plus. Dans certains pays, on en a.
Ouais.
C'est plus intéressant parce qu'un patch, ça peut se garder plusieurs jours, même s'ils ne supportent pas la baignade. Donc, ceux qui font de la natation, c'est un peu inconfortable. Mais en fait, on peut s'adapter avec des injections et du gel et ça marche très bien.
Ils ont des bons résultats ou ceux qui avaient des symptômes désagréables en prenant ces traitements,
Exactement.
Ça les aide. Et c'est pas dangereux, il n'y a pas de risque à prendre testostérone. Oui, parce que c'est une idée reçue qui circule
pas
mal.
Exactement, il faut tordre le cou à cette idée qui est fausse. La testostérone ne donne pas le cancer de la prostate. C'est une légende qui date des années 40. La testostérone, et même on avait fait une étude il y a quelques années qui prouvait que ceux qui manquent de testostérone peuvent avoir des cancers de la prostate plus agressifs. Donc on peut même aller à contrario dire que la testostérone, il nous faut un taux de testostérone dans l'organisme pour pouvoir bien vieillir. C'est pas d'arrêter de vieillir, mais c'est de bien vieillir.
D'accord.
Anne-Cécile, je crois que du côté de la phytothérapie, il y a des plantes qui peuvent avoir un effet pour limiter les signes et les symptômes de l'andropause. On veut connaître ces plantes.
Oui, alors je suis donc allée voir différents spécialistes de l'andropause, des urologues, des sexologues, j'ai questionné la médecine chinoise, la médecine indienne, des pharmaciens et des phytothérapeutes aussi.
Et donc, quelle est la recette miracle?
Alors, la recette miracle, c'est vraiment d'aller voir d'abord, parce qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers. Je vais vous le dire, il y a un petit suspense, mais je vais vous dire le nom des plantes. Mais je pense qu'il ne faut pas acheter 400 grammes de trucs et se faire une automédication, parce que ça ne sert à rien de plâtrer la mauvaise jambe, on va dire. Mais enfin, si vous l'attendez, quel suspense.
Ah, il le fait bien.
Il y a trois plantes magique, la maca. Le... Je cherche mes notes.
Ah non,
tu t'es pas perdu les affaires en ligne.
Je suis navrée, mais j'ai perdu mon.
Bah, c'est pas grave, on vous laisse chercher.
Le ginseng, la maca et la troisième, eh ben, elle est dans mon bouquin parce que j'ai mangé.
On ira la voir dans le bouquin.
On
ira
la voir déjà, en tout cas. Ça fonctionne.
Mais ça peut aider. Ça peut aider. Oui. Mais je crois surtout, docteur Galliano, qu'on peut aussi juste changer ses habitudes pour limiter les désagréments de l'andropause. Vous disiez tout à l'heure, faire gaffe à son alimentation, faire du sport, ça peut déjà avoir un impact. Ça s'est prouvé, vraiment ?
Alors, oui. Alors, l'activité physique, en tous les cas, elle est plus que souhaitable. Elle est recommandée aujourd'hui pour pouvoir maintenir une autonomie physique, mentale, physique et sexuelle le plus longtemps possible. Ah oui. L'activité physique entraîne des boosts de testostérone. Alors évidemment, quand on a des taux qui sont très bas, c'est à la marge. Mais c'est important. Et ce que je dis toujours aux patients, c'est que de la testostérone prise sans activité physique, ça fait moins bien que testostérone plus activité physique.
Et qu'est-ce que vous pensez de la petite pilule bleue, la fameuse C'est pas pour tout le monde ça. Ça peut avoir des effets secondaires.
Alors, c'est la petite pilule bleue qu'on appelle le sildénafil. C'est pas pour régler les problèmes de testostérone, c'est juste pour l'érection. C'est absolument la plus belle invention des années, fin des années 90, début des années 2000. Ça a révolutionné la prise en charge des dysfonctions érectiles. Il ne faut pas en avoir peur, pas de cardiophobie. Il faut simplement, lorsqu'on a un doute, aller voir un cardiologue, s'assurer que tout va bien. Et ça reste un vasodilatateur.
Mais c'est pour tout le monde, je veux dire. Il n'y a pas de
contre-indication.
Ouais. Voilà. La seule contre-indication, c'est lorsqu'on prend une molécule qu'on appelle la trinitrine, lorsqu'on fait de l'angor, donc lorsqu'on a les coronaires qui sont un peu serrés. Si on prend en effet une pilule bleue et de la trinitrine, on est mort.
Donc si vous faites de l'angine de poitrine, surtout, voilà, n'y allez pas.
Exactement.
Anne-Cécile, justement, on a parlé là de l'impact psychologique un peu dans cette émission de l'andropause. Et d'ailleurs, là, on parlait de troubles de l'érection. Parfois, il suffit simplement, pour certains hommes, d'aller suivre une thérapie chez un sexologue pour améliorer les choses au niveau libido. Ça, vous l'avez constaté, certains vous l'ont raconté.
Oui, alors je ne sais pas s'il suffit d'eux, mais ça peut être une solution, en tout cas d'aller... C'est aussi une solution, enfin, c'est un moment où on peut re-questionner son couple, son désir, qu'est-ce que c'est pour nous la relation sexuelle, qu'est-ce que c'est pour nous le couple, l'amour, etc. C'est peut-être aussi l'occasion de poser des dossiers dans son couple et puis de se parler, de se dire, tu sais, ça fait depuis toujours qu'on fait ça comme ça, en fait, moi, Et donc,
pourquoi pas changer ?
Pourquoi pas changer ? Pourquoi pas se réinventer ?
Ça peut être un mal pour un bien. Mais moi, je voulais juste poser la question de la chirurgie aussi. Parce qu'on parlait des troubles de l'érection. Si le Viagra, la petite pilule bleue, ne fait pas de miracle, on peut avoir recours ou pas à la chirurgie ?
Alors oui, on peut avoir recours à la chirurgie, mais en général, c'est le dernier recours. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les molécules, on a des molécules à prendre par la bouche, on a des molécules en gel, on a des molécules à s'injecter, qui marche formidablement bien. On a des ondes de choc qui régénèrent les tissus.
Il y a plein de solutions.
Il y a plein de solutions avant de parler d'implant pénien. Ouais.
Bon, très bien. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h. On a fait un petit tour des infos et des conseils qui peuvent être utiles à tous les hommes quand ils prennent de l'âge. Mais je rappelle que pour en savoir plus, il y a aussi votre livre, Anne-Cécile Michelet, « Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause », paru chez Le Duc. Merci encore.
Et oui, merci à vous. Dans un instant, place aux bienfaiteurs d'Europe 1. D'abord, Cécile Coumoud qui va tester pour nous les services d'une home organizer. Je sens que je vais adorer son reportage avec ces gens qui viennent ranger chez nous. Et puis Nathalie Le Breton sera aussi des nôtres. Elle va nous conseiller des livres pour enfants qui parlent des parents imparfaits. Toute la famille va apprécier ces lectures, je pense. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Vous venez d'entendre le chanteur Pierre Demar avec son dernier titre, Enfant 2 sur Europe 1, sorti cette année en 2023. Et lui en parlera peut-être dans 40 ans, c'est Christophe Ondelat. Alors vous connaissez votre rendez-vous habituel, Ondelat raconte de 14h à 15h. Eh bien, sachez que Christophe vous raconte aussi de 15h à 16h une année marquante en 5 épisodes du lundi au vendredi à travers les archives d'Europe 1 notamment. Alors cette semaine et depuis lundi, on revisite l'année 1965 et aujourd'hui on reviendra entre autres sur la mise en orbite d'Astérix. Alors non, Julia, c'est pas le personnage Astérix, c'est le premier satellite artificiel français.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Très heureuse de vous retrouver ici dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à midi et on va tout de suite accueillir les bienfaitrices du jour d'Europe 1. D'abord vous Nathalie Le Breton, bonjour.
Bonjour Nathalie. Bonjour.
Alors ce matin des livres pour enfants mais qui vont beaucoup plaire aux parents qui nous écoutent je pense.
Et oui, nous ne sommes pas parfaits en tant que parents, quelle bonne nouvelle. Et bien les enfants, vous savez quoi? C'est bien fait pour vous.
Nathalie, on vous retrouve dans quelques minutes avec vos recommandations lecture mais pour l'instant je me tourne vers Cécile Coumont. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Alors bonne nouvelle, hein, c'est le printemps. Moins bonne nouvelle, c'est l'heure du grand ménage qui va avec la saison. Donc comme on n'est pas tous des as du rangement comme Julia Vignali, vous vous êtes intéressée à ce que l'on appelle le home organizing.
Ah oui, alors en français il n'y a pas vraiment de mot, mais les home organizers sont des professionnels du rangement. Ils viennent chez vous pour vous aider à trier, aménager, optimiser en fait votre espace. Alors leur travail repose sur quelques principes, je vous en donne un qui est le principe de base je dirais. Une pièce égale une fonction. Si vous mélangez buanderie, bureau et chambre d'amis dans 10 mètres carrés, c'est le bazar, c'est sûr. Vous allez voir que c'est très utile. Exemple, chez Stéphanie qui a fait appel à Camille, une home organizer qui appartient au réseau La Fée du Tri.
Continuons le tri.
Alors, la farine de sarrasin.
Qu'est-ce qu'on pense de la farine périmée depuis 2 ans?
Bon ben, au revoir.
Adieu à la farine la plus chère de France.
Dommage.
Alors, la polenta 2020.
Ouais, ok.
Donc,
périmé. Donc, on va dans la poubelle.
Bon alors, on ne juge pas.
Hein, 2020 produits... quand même.
Regardez dans vos placards, non, les produits restés des années au fond d'un placard, on est très nombreux à en avoir. Et pas besoin d'être bordélique, passez-moi l'expression, hein, pour accumuler bêtement.
Mais ça, c'est
par
sûr.
Exemple, chez Stéphanie, il y avait un nombre de torchons incroyables. Je me suis dit, mais c'est dingue. Du coup, j'ai fait le compte chez moi. J'en ai 32 quand même.
De torchons
Mais c'est beaucoup trop, 5, 6.
Moi, j'en ai 6, ouais, je crois.
Ouais, même pas. Maintenant, j'imagine que le home organizer n'est pas là que pour appliquer des principes, on est d'accord?
Non, non, bien sûr, parce qu'il ne faut pas être trop rigide en rangement comme dans le reste de la vie d'ailleurs. Pour preuve, vous savez, la papesse du rangement, la célèbre Marie Kondo, elle a avoué qu'elle avait fait un burn-out, donc on se calme.
Elle parlait à ses pulls, je le précise.
Oui, donc voilà, là voilà, on est proche de la maladie quand même. Donc un home organizer, il ne va pas ranger à votre place.
Ah,
hein.
Dommage.
Il va s'habituer, il va regarder, il va vous questionner, il va s'adapter à vos habitudes de la famille. Alors, on retourne chez Stéphanie, grosse phase de réflexion de la home organizer.
Donc, c'est soit on déplace toute la nourriture là-bas. Donc, ça peut en avoir avantage parce que du coup, on a toute la nourriture au même endroit, mais c'est un peu plus loin. Donc, deuxième option, on déplace une partie de la vaisselle qu'on n'utilise pas au quotidien là-bas pour que toute la nourriture rentre dans le même placard. Parce que je me pose la question, moi, il y a aussi l'aspect visuel. C'est-à-dire que d'avoir les choses dans le couloir, soit peut-être des assiettes empilées les unes sur les autres, à peu près rangées, c'est peut-être plus sympa. Et d'avoir les canettes de maïs plutôt dans un truc fermé, ici, là ou là, c'est peut-être aussi voilà, en considération.
J'ai été élevée dans une maison où il y avait une pièce qui était un garde-manger. Et en fait, j'ai toujours adoré les celliers. Je trouve qu'il y a un truc super gourmand avec le cellier, je vois tout, etc.
Ok, bon. Alors, la nourriture là-bas, les épices ici avec les torchons.
Hop, sac poubelle.
Bon, et Cécile, une fois que tout est rangé, comment faire pour que... Parce que c'est quand même ça le problème, que le bazar ne reprenne pas ses droits.
Oui, c'est évidemment un peu tout l'enjeu. Et c'est pour ça que vous avez vu que Camille, elle prend pas mal de temps finalement à analyser l'espace, à poser des questions à Stéphanie sur ses habitudes de vie. Parce qu'un home organizer, il n'a pas de baguette magique.
Quand on est naturellement un peu bordélique, on ne va pas d'un coup devenir un maniaque de l'ordre. En revanche, je pense qu'à partir du moment où on a fait les choses avec le home organizer et qu'on a trouvé une logique, je pense qu'on peut suivre la logique. C'est comme un régime, c'est-à-dire qu'on peut se contraindre à ne manger que des haricots verts pendant 2 mois, mais on sait que ça ne tiendra pas sur la longueur. Pour moi, le rangement, c'est la même chose.
Donc, vous voyez, en l'occurrence, Camille a fait un petit tour dans l'appartement de Stéphanie pour voir si tout était rangé. Et c'était bien. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir un coach, c'est aussi qu'il va vous donner de l'énergie. Et ça, c'est parce que c'est un peu difficile parfois après un deuil ou un divorce. Vous savez, trier, c'est difficile. Donc voilà, c'est tout l'intérêt du home organizer.
Et Cécile, évidemment, la question très importante, ça coûte combien de faire appel à un pro du rangement?
Alors, globalement, les tarifs sont à l'heure, 50 à 80 euros de l'heure. Après, c'est à vous de voir combien de temps il vous faut pour tout remettre en ordre.
C'est ça. Merci beaucoup Cécile pour ce reportage bien organisé. J'en profite d'ailleurs pour signaler à nos auditeurs la sortie de votre livre, Julia. Ben oui, Julia Vignali aussi est la prêtresse du rangement. Ça s'appelle Adieu Bordel. C'est sorti chez Flammarion et c'est un peu comme si vous veniez ranger chez nous en fait.
Ça serait mon rêve d'aller ranger chez vous, Mélanie.
Bon, allez, combien d'heures? Il y a du boulot. On reste dans les livres avec vous, Nathalie Le Breton. Il y a parfois beaucoup d'incompréhension entre les parents et leurs enfants, comme entre les enfants enfants et leurs parents, qu'on le veuille ou non. Les enfants ne sont pas parfaits, mais ce constat vaut aussi pour nous, les livres nous le rappellent.
Et oui, et j'ai trouvé un livre qui vous va tellement bien, Mélanie
à
et Julia, ça s'appelle Bien fait
pour
vous.
Bien fait pour
celui-là,
c'est génial. Ils ont piqué le titre.
C'est un livre de Claire Clément et d'Aurélie Guiret. Nul doute que vous les ayez inspirés, c'est en direction. Un message en direction des parents. Bah oui, parce que ce petit Blaise-là, il en a ras-le-bol de ses parents qui ne cessent de le gronder. Puisque c'est comme ça, il va disparaître. Il va disparaître, mais pour de vrai, je suis sûre que vous, vous avez pensé un jour comme ça quand vous étiez petite. Ouais. Oh là là, ben, comme ça, ben, je suis mort. Comme ça, je suis mort, je m'en vais, on ne me voit plus, etc. Et donc, effectivement, il disparaît. Mais là, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, toutes ces telles mélodies d'amour arrivent. La mère, mais mon chéri, mais c'est vrai que je t'ai disputé, je t'ai demandé de ranger ta chambre, mais j'aurais jamais dû, t'es tellement mignon. Et vas-y, qu'elle le câline, etc. Le père, mais non, j'aurais jamais dû te priver de dessert. Mon chéri, c'est vrai, non, mais c'était comme ça. Tu sais, c'est nous, comme ça, les parents, la petite copine, Amandine. Mais tu sais, si, en fait, je voulais bien me marier avec toi. Il découvre que tout le monde l'aime, voilà. Et à chaque fois, c'est sa petite vengeance. Et ben, bien fait, bien fait. Enfin, il entend des mots d'amour. Et heureusement, après la pluie, le beau temps, une brise revient et on découvre qu'il s'était endormi. Il s'était mis au calme, au vert. Il avait un peu pris un peu de distance avec ses parents.
Non, mais en fait, cette opposition aux parents, ça se fait surtout sentir dès qu'on est dans notre rôle d'éducateur qui impose du cadre et des règles. C'est impossible d'éviter ça.
Ah, oui, et oui, il n'aime pas rentrer dans le cadre au bout. Et d'un certain temps, ils nous le disent bien. Alors, quel est le secret des parents? Je peux vous dire que Kléber, lui, il l'a trouvé. Ça s'appelle Comme ça, c'est un livre de Nicolas Mathieu et Pierre-Henri Gaumont. Regardez, c'est sorti chez Actes Sud Junior. Et ce petit Kléber, là, il est attentif, assez observateur. Et effectivement, il s'est dit, mais en fait, je pense que j'ai compris. En fait, les parents sont des menteurs. Les parents, c'est quand même du genre à nous dire « Bon, écoute, il reste trois fois rien dans ton assiette, finis ton assiette, alors qu'il me reste au moins les trois quarts de haricots verts. » Et c'est la même chose pour le père qui dit « Écoute, va donc ranger ta chambre en deux minutes, c'est fait. » Et quand je m'y mets, ça dure facilement au moins une demi-journée. Ce sont des menteurs. Ouais. Donc, Mélanie,
il a pas tort.
Quand ils nous disent qu'ils nous aiment,
ah, ils nous aiment pas.
Eh ben, en fait, ils nous détestent. Là 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 là. C'est ça qui est terrible, c'est ça qu'il comprend. Alors, il est quand même un petit peu désespéré. Il va voir sa grand-mère. Elle s'appelle Dame Tartine. Et alors, lui, il sait pas comment elle est en tant qu'adulte. Il dit, mais c'est quoi le problème, en fait? Je sais, les parents nous détestent. Ce sont des menteurs et en fait, ils nous détestent. Mais moi, je ne veux pas oublier ça et je ne veux pas détester mes enfants. Parce qu'elle, elle lui dit, mais tu sais, en fait, le secret surtout, c'est que les parents, ils ont oublié qu'ils étaient enfants. Alors, il se met à écrire partout. Ah non, je n'oublierai pas. Derrière les murs, il écrit dans les cahiers. Je serai toujours un enfant. Je serai toujours un enfant. Et je serai sympa avec mes enfants. Mais bah, ça ne marche pas toujours. Et donc là, il va à l'école. Sa grand-mère lui dit, concentre-toi. Il va à l'école. Il apprend des tas de choses. Puis il oublie, il devient un adulte, il oublie qu'il a été enfant jusqu'au jour où lui-même, il a un enfant et que cet enfant-là lui fait une tarte à la Mirabelle qui lui rappelle sa grand-mère qui lui disait que, et il se souvient qu'il a été un enfant. C'est ça le secret, rester des enfants.
Très rapidement, Nathalie, on n'a plus de temps. Quelquefois, le problème, c'est qu'un parent en prend plus pour son grade que l'autre. Est-ce que vous avez un dernier bouquin très rapide pour rétablir l'équilibre de la situation?
Bah oui, parce qu'il ne faut pas de conflit de loyauté. Il y en a un qui est sympa, l'autre qui ne l'est pas. On va se faire du baume au cœur avec Papa, Maman, quel talent. C'est sorti chez Thierry Magnier. C'est un livre d'autrice polonaise et c'est plutôt bien fait parce qu'on voit le père et la mère dans leur différence. Bah oui, papa, il est cool, il s'amuse, il fait l'acrobate. C'est un super-héros dans son genre. Mais la maman, qui est là, qui fait le repassage, qui en même temps fait à manger, qui en même temps fait les grands câlins, bah elle aussi finalement, elle n'est pas si mal. Donc finalement, père, mère, chacun a du plus, du positif, de l'amour. Et c'est pour ça qu'on aime ses parents, finalement.
Merci beaucoup, Nathalie, pour cette sélection dont on retrouve les références sur europe1.fr et dans le choix de livres de vos box, notisseautemps.fr. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve demain à 11h. Julien, on va parler de quoi demain?
Oh, bah ça va piquer, hein, ça va twister demain, puisqu'on va mettre un coup de projecteur sur le monde savoureux des épices. Poivre, gingembre, safran, cannelle. Les épices colorent et parfument notre cuisine au quotidien. Mais savez-vous bien bien les utiliser. On en parle demain.
Je pense que ce sera utile pour vous, Julia, demain. Oui. Pour le moment, on va laisser la place à l'info sur Europe 1. Car à suivre, c'est Europe 1 Midi. Avec vous, Romain Desarbres, quel est le programme?
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Dans Europe 1 Midi, on va parler de la réforme des retraites. On va parler de cette invitation lancée par Elisabeth Borne aux syndicats pour qu'ils viennent parler. On ne sait pas bien de quoi. A priori, de la réforme des retraites, du travail. Bon, il y a uniquement un syndicat pour le moment qui a dit oui, je vais m'y rendre. C'est Laurent Berger de la CFDT. On sera avec Pascal Coton de la CFTC, le syndicat chrétien. Je lui ai demandé, tiens, est-ce qu'elle ira ou pas lundi ou mardi à Matignon. Et puis vous, vous appelez le 3921, vous nous dites, est-ce que vous voyez le bout du tunnel ou pas là? Vous appelez le 3921, on en parlera dans Europe 1 Midi. Voilà le programme, à tout de suite.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.